Les 26 et 27 octobre 2019 se tenait la 14e édition du salon Tatou Juste, le rendez-vous des solutions heureuses. Radio Onden vous propose de revivre cet événement à travers l'espace média et les discussions rencontres animées par Radio Dio et Radio Onden durant tout le week-end.
Nicolas de Radio Onden qui est ici présent. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lionel.
Et bienvenue bien sûr sur ce salon Tatou Juste. Bienvenue également à notre première invitée. On l'annonçait il y a tout juste quelques instants. C'est une conférence... Une conférence entendue en fin de matinée à partir de 11h. S'impliquer ou oser s'impliquer dans la vie politique locale. C'est un ouvrage qu'a réalisé, publié Christian Proust qui est avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Et bienvenue également sur Tatou Juste et sur nos radios associatives locales Loire-Sud.
Alors, petite parenthèse aussi pour rappeler à nos auditeurs que nous sommes en direct durant ces deux jours sur les deux antennes. Vous allez retrouver ici... sur votre poste radio, mais également sur ce stand que nous avons sur le salon Tatou Juste, des discussions, des rencontres avec différentes personnes, et notamment donc les conférenciers qui vont venir nous annoncer un peu l'objet des discussions qui vont avoir lieu dans cet espace Tatou Juste, un peu plus loin. Alors, c'est pas très radiophonique, hein, un peu plus loin. C'est... Voilà. Alors, Christian Proust, bienvenue.
Bienvenue
sur nos antennes. Comment oser s'impliquer dans la vie politique locale, c'est un peu l'objet de vos discussions, c'est les échéances qui vont arriver. Oser, pourquoi oser ?
Je crois qu'il faut d'abord partir d'un constat. Les députés qui aujourd'hui s'occupent de nos lois ont été élus dans le meilleur des cas par 20%, au maximum par 20% des gens qui sont en âge de voter sur leur circonscription. Moi, je pense que la démocratie représentative, elle n'existe plus. Je crois que la principale cause, ou l'une des principales causes, ce sont les pratiques politiques qui sont exercées dans notre pays depuis quelques décennies. Et je pense que les changements de ces pratiques ne viendront pas du haut et qu'ils ne pourront venir que du bas, comme on dit, c'est-à-dire de citoyens qui s'impliqueront pour mettre en place une autre culture démocratique qui pourrait s'appuyer, par exemple, sur le partage du pouvoir, le non-cumul de mandats, la transparence et surtout la participation de la population.
Alors, cette participation de la population, des événements récents mais récurrents montrent que, finalement que la population souhaite se faire entendre, alors oui, par des manifestations, les gilets jaunes sans les citer, et puis d'autres engagements. Et engagement, justement, c'est ce terme-là. Finalement, avant, on s'engageait en politique, on s'engageait au service des autres pour défendre, finalement, des idées que peuvent avoir qu'à la population, et qu'aujourd'hui, finalement, cette classe politique est vue comme une activité professionnelle. Vous parliez du cumul des mandats, etc. Aujourd'hui, c'est le démarrage des élections municipales, des échéances à venir dans ce début 2020. Comment on s'engage, finalement ? Qu'est-ce que vous conseillez dans votre ouvrage ?
Je vais répondre à cette question, mais juste une anecdote. Il y a un mois, j'étais à Poitiers lors d'un rassemblement national de listes citoyennes et participatives. Il y avait 200 personnes et 40 listes. Ces gens-là, ils sont pris en main en disant « c'est plus possible que ça continue comme ça ». Alors, comment ça se... quels sont les conseils, entre guillemets, parce que je crois que je suis pas là pour donner des leçons, mais certainement pour donner quelques indications de comment ça se passe déjà, parce que c'est déjà en route. Déjà depuis 2014, il y a eu un certain nombre d'essais, et je cite évidemment abondamment l'exemple de la commune de Saillant, dans la Drôme, qui a réussi depuis 2014 à mettre dans le coup un tiers de sa population. C'est-à-dire, un tiers de la population participe soit à des commissions municipales, mais ouvertes à la population, soit à des groupes projets sur des projets très précis, par exemple l'éclairage de nuit. Comment est-ce qu'on va régler cette histoire-là pour faire des économies d'énergie ? Eh bien, là, il y a des gens qui se sont investis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont, à Saillant, développé une multitude de solutions pour donner l'occasion aux gens de s'impliquer. Et on découvre un truc qui est quand même incroyable, c'est que les gens aiment la politique. C'est que les gens ont envie d'en faire. Et je crois que vous parliez des gilets jaunes, je crois que ça a été une surprise pour tout le monde de voir que le discours passait de l'augmentation du prix de l'essence à celui de la participation à la vie publique et à la vie collective des gens de la cité. Et ça, c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Je suis persuadé qu'il va y avoir au municipal des gens qui vont s'entendre, non pas sous un drapeau politique comme ça se faisait jusqu'à maintenant, mais ils vont s'entendre sur des valeurs. Et c'est comme ça que ça commence, un groupe citoyen. C'est sur quelles valeurs on veut travailler. Et ensuite, concrètement, comment on va gouverner la commune, comment on va gouverner la ville. Et là, on s'entend sur un certain nombre de règles précises. Alors, c'est vrai que je donne dans mon bouquin tout un tas de conseils, d'exemples et de clés, en fait. Mais honnêtement, ce ne sont pas des recettes. C'est plutôt pour... Comment dire ? Pour se rassurer, parce que oser, c'est pas simple. On nous a dit pendant des décennies que la politique, ça concernait pas tout le monde, que ça concernait les sachants, ceux qui avaient des diplômes, ceux qui savaient bien parler, ceux qui pouvaient parler à un micro, par exemple. Aujourd'hui, il faut que ça change, et pour que les gens prennent confiance en eux et aient cette capacité à oser, d'abord qu'ils aient conscience qu'ils ont une capacité à gérer les choses avec les gens de leur quartier ou de leur ville, eh bien, il faut que cette confiance-là, elle soit portée par un collectif, et c'est ça qui va leur permettre d'oser.
Alors, les règles, on va parler des municipales, hein, sont oui. faites telles que, finalement, on présente une liste avec oui. un certain nombre de personnes, 29, je crois, selon le nombre d'habitants sur une commune.
Voilà.
Et puis, après, on a quand même une hiérarchisation qui s'installe avec la personne qui va être désignée comme maire finalement par son conseil municipal, à la base on le sait, hein. Et puis premier adjoint, et toute une graduation comme ça. Comment on passe au-delà de ça ? Comment on change ces règles-là ?
Ça, c'est une organisation totalement verticale qui date de Mathusalem et qui est en train d'être bouleversée. Je vous parlais de Saillant, mais Saillant a d'abord refusé d'organiser son conseil municipal avec des adjoints. Ils ont décidé que les conseillers seraient tous organisés en binôme, c'est-à-dire qu'il y aurait, pour se charger d'un thème précis, non pas une, mais deux personnes, et que tous les conseillers municipaux seraient au même niveau de responsabilité. Ce qui change beaucoup les choses, parce que ça veut dire que, un, le maire n'a pas tout à porter sur sa tête, deux, il n'y a plus de potiche. Vous n'avez plus les copains qui sont venus dans votre liste pour faire nombre, et puis qui était là juste pour vous faire plaisir, et puis qui avait surtout entendu le maire dire « Oh, mais toi, t'inquiète pas, t'auras pas de boulot à faire, c'est moi qui me taperai le travail. » Ça, c'est fini. Et dans les listes citoyennes et participatives qui se mettent en place, ce qui se met en place, c'est une horizontalité, comme on dit, une organisation beaucoup plus horizontale où les responsabilités sont réellement partagées entre tout le monde.
Aujourd'hui, à l'échelle de la nation, de l'État, finalement, à votre sentiment, comment vous considérez le fait comment nos dirigeants voient ces listes-là citoyennes se former ? Est-ce qu'il y a une crainte ? Est-ce qu'il y a finalement aussi une sorte d'entente de ces nouveaux projets, de cette nouvelle gouvernance, de ces collectifs qui vont finalement se mettre ensemble et des citoyens qui vont faire en sorte qu'ils vont faire avancer les choses pour eux aussi et tous leurs concitoyens.
J'ai fait partie d'une liste citoyenne en 2014 dans une commune de 10 000 habitants. Nous faisions figure de marginaux et de gens complètement à part. Néanmoins, on n'a pas fait de résultats désespérants. Aujourd'hui, il va y en avoir partout. Il faut savoir qu'il y aura même plein d'imposteurs, c'est-à-dire des gens qui vont s'appeler citoyens ou listes citoyennes, mais qui n'auront, comment dire, où ça sera un goût très light. Hein.
Oui.
Je crois au contraire qu'il va y avoir parallèlement des vraies listes qui aujourd'hui déjà inquiètent les anciens appareils, inquiètent les anciennes organisations. Parce qu'elle dérange, culturellement, elle dérange techniquement. On va prendre un exemple concret. Quand je vois la liste citoyenne de la commune de Toulouse qui est en train d'organiser sa liste à partir de trois collèges, un collège de personnes tirées au sort dans la population, et croyez-moi, c'est du boulot que tirer au sort dans une commune comme Toulouse, un collège de gens volontaires et enfin un collège de gens plébiscités. Donc, C'est-à-dire c'est des gens qui n'étaient pas candidats, qui n'étaient pas volontaires, mais d'autres pensaient à leur place que peut-être qu'il serait intéressant de les mettre, ceux-là. Et là, au bout du compte, on arrive à une liste, et c'est cette liste-là qui va désigner la tête de liste. C'est pas dans le sens inverse, où vous avez une tête de liste qui s'auto-désigne dans la plupart des communes, ou alors qui se bagarre avec son parti politique pour avoir la responsabilité de tête de liste, ce qu'on appelle une investiture, et puis qui ensuite fait venir comme il peut des gens dans sa liste. Là, on a un système qui est en train de se mettre en place totalement opposé.
Alors, sans faire de politique, on a eu l'exemple de personnes prenant des responsabilités venant de la société civile. C'était un terme à la mode et que finalement, ces gens-là qui venaient de la société civile, qui ont pu faire croire, entre guillemets, que ça allait changer, montrent au final qu'ils deviennent des professionnels de la politique. Est-ce que là, ce n'est pas le risque? Et qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on monte une liste citoyenne?
Ah, vous avez vraiment raison, parce que il faut savoir que le pouvoir, ça rend fou aussi. Hein. Mais que ça peut séduire, que ça peut apporter, et ce n'est pas une question d'argent la plupart du temps, mais ça apporte d'autres satisfactions qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'en partir. Je crois que la chose qu'il faut vraiment regarder de très près, c'est de ne pas confier le pouvoir à une seule personne. C'est qu'on soit toujours dans le collectif et que les élus soient au service des habitants qui, eux, dirigent la commune et non pas l'inverse. Donc j'ai conscience que ce que je dis semble une grande utopie, mais en réalité, c'est déjà en route et pas seulement en France d'ailleurs.
Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce qu'il faut essayer de réfléchir à une sorte de charte?
Oui.
Où on signe tous et on a bien conscience que lorsqu'on a signé, on s'est engagé à respecter oui. Ce pour quoi on est venu.
Absolument. Je connais plusieurs listes, même des quantités de listes. Maintenant, on peut parler de ça. À partir du moment où il y en a plusieurs dizaines, on peut dire ça, qui commencent par ce travail-là. Elles sont, au départ, il y a très peu de gens. Il y a moins d'une dizaine de personnes qui démarrent. C'est assez incroyable, cette histoire. Et puis, ils vont commencer par bosser sur, effectivement, une charte qui va définir les valeurs, définir la méthode de travail, comment on va s'organiser entre élus, qui va faire quoi, comment on va travailler avec la population, est-ce qu'on va donner une place à l'opposition, comme on dit en France, ou à la minorité en tout cas, ou est-ce qu'on la met de côté une fois pour toutes pendant 6 ans, etc., etc. On va répondre à tout un tas de questions pour être bien clair avant les élections sur le contrat que l'on va proposer aux électeurs. Et ce contrat, c'est la garantie que le fonctionnement, et c'est la garantie qui est portée par le collectif, que le fonctionnement sera bien tel qu'il a été défini jusqu'à la fin du mandat.
Alors, il existe quand même une défiance vis-à-vis d'une partie de la population quant aux élections même.
Oui.
Alors, quand bien même elles soient menées par des listes citoyennes, oui. Il y a toujours cette défiance-là et peut-être même des pensées qui vont dire que c'est une couverture. Il y a un travail de profondeur à faire finalement pour creuser et finalement convaincre ceux qui ne votent pas qu'ils peuvent aussi s'engager. Et ça, c'est à votre avis, alors vous avez écrit là-dessus, mais c'est un travail qui va se passer sur combien de temps? Est-ce que on peut imaginer ça sur des échéances allant sur une décennie, moins, plus?
On est en tout cas sur du long terme. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ce n'est pas en un mandat qu'on va changer une culture. Et autant d'habitude. Vous avez raison, cette défiance, c'est ça l'objectif de gens comme moi, en tout cas. Si je suis ici parmi vous aujourd'hui, c'est bien pour essayer de dire aux gens, il va falloir revenir aux urnes. Mais il faut revenir aux urnes dans un autre cadre, avec des gens dont les pratiques politiques seront totalement différentes. Et si les politiques traditionnelles ne comprennent pas ça, alors il faut en changer. Il faut changer les joueurs, parce que dans notre pays, les pratiques politiques sont décidées par des règles du jeu qui sont définies par les joueurs eux-mêmes. Autrement dit, pour être encore plus concret, vous pensez bien que des élus comme ceux de Saillant vont, eux, voter pour des sénateurs qui ne seront pas les mêmes. Et donc, on va infuser petit à petit, à partir de la base, jusqu'en haut de l'édifice, une autre culture politique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que pour que tout ce travail d'infusion se fasse, il faut des pionniers, il faut des gens qu'il y ait ce courage, parce qu'il en faut, de changer les règles, mais il faut aussi des citoyens qui comprennent que le moment est d'intervenir, parce que sinon nous allons vers une démocratie vraiment en danger.
Peut-être juste une question, s'il vous plaît, Christian Proust. Vous avez vous-même participé à cette course aux élections départementales, municipales également. Sur cette commune de Soyons, précisément ?
Non, pas du tout. Sur la commune de Parthenay, dans les Deux-Sèvres.
Dans les Deux-Sèvres. Où en êtes-vous de ce projet ? Est-ce que là, vous êtes précisément en perspective de présentation, représentation à nouveau pour l'échéance prochaine ? Et alors, quels avaient été vos résultats précédents et le travail mené jusque-là ?
D'accord. Donc, c'est pas facile. Il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, en 2020, je ne ferai partie d'aucune liste. C'est une question de choix personnel, d'âge aussi. Et puis surtout, parce que je me suis aperçu que mon bouquin, qui finalement se vend très bien, me permet d'aller à la rencontre de beaucoup de groupes et d'aider des groupes à avancer aussi un petit peu sur leur chemin. Entre parenthèses, aujourd'hui, c'est ma 41e conférence. J'aurais pu faire mieux en étant à la 42e, ça c'est vrai.
Bah, on vous en veut pas.
Donc, mon choix personnel, c'est... et donc, ça me donne en plus toute liberté de pouvoir m'exprimer vraiment sans aucune contrainte. Pour répondre à votre question sur 2014, au moment des municipales, ça s'est à la fois très bien et très mal passé. Très mal passé avec les autres listes et avec les partis politiques. Très bien passé parce que nous avons surpris tout le monde en étant vraiment sur une commune de 10 000 habitants, en étant à 50 voix de la deuxième liste. Donc c'était assez surprenant. Et au moment des départementales, ça s'est plutôt bien passé aussi, puisqu'on a affronté... le président du département actuel, on l'a affronté. Donc si je vous dis que c'est le président actuel du département, ça veut dire que c'est bien lui qui a gagné et pas nous. Mais néanmoins, nous avons fait 44% de voix, ce qui prouve que les idées, et ce, au deuxième tour, les idées que nous portions faisaient leur petit bonhomme de chemin.
Alors, il y a quand même une réalité aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il existe toute une organisation qui est installée, oui. Qui demande aussi du travail pour connaître cette organisation-là, qui oui. demande aussi du temps.
Oui.
Est-ce que ça demande du temps de s'impliquer dans la vie politique locale ?
Oui, ça demande du temps, et c'est pas rien. Moi, je ne veux pas qu'on raconte d'histoire. Il faut beaucoup de volonté, il faut du temps. Alors maintenant, il ne faut pas qu'on raconte l'inverse. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse croire, comme je n'arrête pas de l'entendre en ce moment, que pour être maire, il faut être expert en tout. Une sacrée belle bêtise. C'est que là encore, on confond le boulot de l'expert avec le boulot du politique. On n'est pas sur les mêmes règles du jeu. Et moi, mon bouquin, il y a toute une moitié du livre que je consacre à la compréhension du fonctionnement pratico-pratique d'une collectivité locale. Honnêtement, c'est simplement pour rassurer les gens, pour leur dire, bah, vous voyez bien que c'est pas si compliqué que ça, que c'est pas si incompréhensible que ça, puis arrêtons de laisser croire que les politiciens en place en ce moment n'ont jamais commencé. Il y a un jour, ils ont commencé, ils ne savaient rien du tout.
Exactement. Alors, merci Christian Proust d'être venu sur notre plateau radio. On rappelle à nos auditeurs et même aux visiteurs du Salon Tatou Juste que vous allez animer une conférence d'ici quelques minutes autour de ce thème « Oser s'impliquer dans la vie politique locale ». C'est le titre d'un ouvrage que vous avez écrit et édité. Vous allez également le signer, pourquoi pas, après la conférence sur le stand de la librairie Lirondaine, librairie coopérative. Aussi, super. Avec une gestion à plusieurs centaines de personnes. Et je rappelle à tous nos auditeurs aussi qu'on est en direct durant ce salon Tatou Juste
et
pendant
oui,
deux jours.
Et Christian Proust, je me permets aussi de compléter, Nicolas, également avec quelques informations relatives aux municipales prochaines, notamment à Saint-Étienne. On évoquait les Gilets jaunes à l'instant. On rappelle qu'il y a 6 listes aujourd'hui constituées pour cette... échéance électorale à venir ici même à Saint-Étienne, avec une liste de gauche qui pour l'instant ne semble pas unie, donc qui part de façon un petit peu divisée, et notamment une liste citoyenne s'est mise en place ici même à Saint-Étienne, on le rappelle, des citoyens engagés notamment aux côtés des Gilets jaunes pour certains, mais d'autres collectifs, associations organisées et constituant une liste aujourd'hui. Donc pour cette échéance électorale municipale prochaine. Et j'en profite pour annoncer quand même que c'est l'acte 50 aujourd'hui l'appel à manifestation nationale des Gilets jaunes à Saint-Etienne. C'est ce samedi 26 octobre. On en profite quand même pour le rappeler parce que eh bien, c'est une nouvelle action, nouvelle manifestation, nouvel appel à converger sur la ville ici aux 7 collines. Rendez-vous est donné cet après-midi à 13h au rond-point de Montieu et à 14h place du Peuple. C'était quand même bon de le rappeler, me semble-t-il, pour être aussi en continuité du propos tenu juste à l'instant. Merci Christian Proust.
Merci à vous tous.
On vous retrouve à 11h, ici sur le salon Tatou Juste, Parc Expo Hall B de Saint-Etienne, sur l'espace conférence, bien entendu.